VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Conakry, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Le secrétaire d'État Rex Tillerson est en route pour l'Afrique où la première étape de sa tournée africaine sera Addis Abeba en Éthiopie. Juste avant son départ, le chef de la diplomatie américaine a prononcé une allocution à Washington sur la politique africaine des États-Unis. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Dans son discours hier à l'université George Mason près de Washington, Rex Tillerson a déclaré que la sécurité des États-Unis et sa prospérité étaient plus que jamais liées à l'Afrique. Il a déclaré que les États-Unis étaient engagés à construire une relation forte avec le continent et il a accusé la Chine d'encourager la dépendance dans son approche africaine. Le secrétaire d'État américain assure que l'administration Trump veut collaborer avec les pays africains pour résoudre les conflits et bâtir des institutions fortes. Il a annoncé que Washington allait allouer 533 millions de dollars supplémentaires pour combattre la faim en Éthiopie, dans le bassin du lac Tchad, en Somalie et au Soudan du Sud. Sa tournée d'une semaine dans 5 pays africains sera centrée sur la lutte contre le terrorisme, la promotion de la paix, la bonne gouvernance, le commerce et les investissements. Il se rendra en Éthiopie, à Djibouti, au Kenya, en Angola, au Tchad et au Nigeria. Sa visite en Éthiopie coïncidera avec le passage à Addis Abeba de son homologue russe Sergei Lavrov.
En Sierra Leone, la population vote ce mercredi pour élire son nouveau président. Un poste qui ne devrait pas échapper à l'un des deux partis qui dominent la vie politique du pays depuis des décennies. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h, heure locale état universel, et devraient fermer à 18h pour des scrutins à la fois présidentiels, législatifs et communaux. Plus de 3 100 000 inscrits sont appelés aux urnes. Un panorama des forces politiques en présence avec Morgane Guiriek.
Du côté du parti au pouvoir, le président sortant, Ernest Bai Koroma, ne peut pas se représenter ayant déjà effectué ses 2 mandats. C'est donc Samoura Camara, ancien ministre des Affaires étrangères, qui représentera l'APC. En face, Julius Mada Bio, ancien général, leader de la SLPP, principale formation d'opposition. Et Bio a brièvement été chef de l'État en 1996 après un coup d'État. Il a perdu l'élection de 2012 face à Koroma. Samoura Camara et Julius Mada Bio sont les mieux placés pour la présidence. Leur parti domine la politique sierra-léonaise depuis les années 60, mais cette année, un nouveau parti pourrait peser dans la balance, le NGC, qui a attiré des électeurs des deux camps. Dirigé par Kande Yumkela, ancien fonctionnaire des Nations Unies, le NGC a galvanisé les jeunes en leur promettant éducation et développement. Pour remporter la présidence, un candidat a besoin de 55% des votes. Comme il y a 16 candidats, de nombreux analystes estiment qu'il faudra un second tour.
En Guinée, 8 conseillers de la Cour constitutionnelle ont déclaré non conforme à la loi le remplacement de 3 membres de l'institution. C'est en réaction au tirage au sort organisé par le président de la Cour constitutionnelle qu'ils disent aussi avoir destitué de ses fonctions de président. Yacouba Ouedraogo a joint Karamo Madi, juriste à Conakry.
Un communiqué avait été rendu public invitant l'opinion nationale à venir assister au remplacement du tiers des membres de la Cour constitutionnelle à son siège. Juste après cette cérémonie, il y a eu une plénière de la Cour constitutionnelle des 8 autres membres de la Cour constitutionnelle qui s'est tenue et qui s'est formellement opposée à la tenue de cette cérémonie de remplacement et a donc déclaré nul de nul effet le remplacement qui a eu lieu. J'estimais que le président de la Cour constitutionnelle n'aurait pas respecté les règles de procédure.
Qu'est-ce que le président de la Cour constitutionnelle a posé comme acte qui soit contraire au règlement?
La loi disposait clairement que le président de la Cour constitutionnelle avait un mandat de 9 ans non renouvelable. À part lui, les autres membres de la Cour constitutionnelle feraient l'objet d'un remplacement par tiers. Donc seul le président de la Cour constitutionnelle était habilité à faire un mandat de 9 ans. Maintenant, la divergence vient du fait que les membres de la Cour constitutionnelle avaient établi un règlement intérieur à l'intérieur duquel il avait fait été cas que lors du tirage pour le remplacement du tiers, le nom de l'ensemble des conseillers figurerait dans le book de tirage, ce qui avait été mentionné. Or, ce qui s'est passé hier a été fait, exclusion faite du président de la Cour constitutionnelle. Et c'est là où donc les 8 autres conseillers ont estimé que le président a procédé à une violation de procédure parce qu'il n'a pas respecté le contenu de ce règlement intérieur et que donc il aurait fait ce remplacement de manière informelle ou en catimini dans son bureau pendant que la plénière se tenait avec les 8 autres membres. Ses compères ont estimé qu'il avait en tout état de cause violé les règles de procédure et que donc cette élection était nul et de nul fait. Par conséquent, il procédait à la fois à son invalidation et à la révocation du président de la Cour constitutionnelle.
Finalement, les 8 membres disent que le président de la Cour constitutionnelle est destitué. Le président de la Cour constitutionnelle dit qu'il n'est pas destitué.
Tout à fait. Nous rentrons donc dans une crise institutionnelle et nous espérons que la sagesse va les habiter, d'autant plus qu'ils sont les garants de la constitution de notre pays et du bon fonctionnement des institutions, parce que quand ça brûle dans les autres institutions, elles ont recours à la Cour constitutionnelle. Si donc elles-mêmes brillent par une telle crise, on peut s'interroger sur l'étendue de la crise et les conséquences que cela peut engendrer sur le fonctionnement correct de notre État.
Le juriste Karamoma dit joint à Conakry en Guinée.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Côte d'Ivoire, retour au calme à Mbayakro dans le centre du pays où la gendarmerie locale a été incendiée hier lors d'une émeute de lycéens. Après le meurtre d'une jeune élève, les lycéens sont descendus dans les rues pour réclamer justice. Raissa Girondin.
Suite à l'assassinat la veille d'une jeune fille au lycée de Mbayakro, les élèves de ce lycée ont quitté les cours pour paralyser la ville et saccager la gendarmerie nationale. Lundi, le corps de Glaou Edmond Chanceline, 14 ans, élève en classe de 5e, a été découvert, égorgé et vidé de son sang. Les lycéens sont sortis pour réclamer justice et reprochent aux gendarmes leur inaction. Ils exigent l'ouverture d'une enquête afin qu'on puisse mettre aux arrêts le ou les auteurs de ce crime. Déjà, le 17 février dernier, un gendarme et un civil ont été tués dans une émeute similaire à Blo-les-Quins, dans l'ouest ivoirien. Les résidences du préfet, du sous-préfet et de la gendarmerie ont été saccagées par la population en colère.
Actualité hors d'Afrique maintenant, l'Italie a élu le premier sénateur noir de son histoire. Tony Irobi a fait campagne sous la bannière de la Ligue, le parti italien d'extrême droite anti-immigration. Anastasie Toudjiech.
D'origine nigériane, M. Iwobi, catholique, est arrivé en Italie en 1976. Il a dirigé une entreprise informatique avant de se lancer dans la politique en 1993 au sein de la Ligue. Il avait affirmé dans une interview en 2014 avoir choisi la Ligue, à l'époque un mouvement autonomiste, en raison de la volonté de ce parti de se battre pour le fédéralisme. Le Nigeria a 36 États autonomes et confédérés. C'est un projet qui fonctionne en Afrique. Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionnerait pas ici, avait-il estimé. Sur l'immigration, M. Iwobi a les idées claires. L'intégration est faite aussi de devoirs, pas seulement de droits, dit-il. Il était depuis 2014 responsable du dossier de l'immigration au sein de la Ligue. Les résultats officiels, et donc les noms des élus, ne seront connus que dans les prochains jours, les tribunaux devant encore trancher sur certains cas litigieux. Mais M. Iwobi semble ne pas être concerné.
Baisse des tensions dans la péninsule de Corée en Extrême-Orient. Le président américain Donald Trump a salué mardi les signes d'ouverture de la Corée du Nord concernant un éventuel dialogue avec les États-Unis. Mais il a aussi appelé à la prudence et réaffirmé que toutes les options étaient sur la table. Jean-Roger Bion.
La présidence sud-coréenne a indiqué que Pyongyang est prêt à un dialogue franc avec les États-Unis et suspendrait tout essai nucléaire ou de missile pendant la durée des discussions. Chang Yu-yong, conseiller du président sud-coréen Moon Jae-in, s'est longuement entretenu lundi avec Kim Jong-un à Pyongyang. Les dirigeants des deux Corées se retrouveront fin avril pour un sommet historique dans la zone démilitarisée. Le locataire de la Maison-Blanche a jugé que ces déclarations étaient très positives, mais nous verrons ce qui va se passer. Pour la première fois depuis des années, un effort sérieux est fait par toutes les parties concernées. Le monde regarde et attend, a lancé Donald Trump dans un tweet matinal. Visé par une série de sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le régime nord-coréen a toujours affirmé que son programme nucléaire n'était pas du tout négociable.
Et pour terminer, la Commission de l'Union européenne doit détailler ce mercredi sa stratégie de riposte face aux menaces du président Donald Trump de taxer lourdement les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Mais aucune décision concrète ne devrait être annoncée tant que le président américain n'a pas confirmé ses intentions. Merci de nous suivre.